auditeurs, au micro Catherine Mann pour l'émission Chemin de foi, qui vient vous inviter à cheminer à la suite de quelques grands témoins de la spiritualité chrétienne. Et nous nous intéressons pour le moment au chemin de foi de Catherine Benincasa, Sainte Catherine de Sienne. Lors de la précédente émission, nous avions laissé la Sainte en 1368, alors que le Christ venait de lui apparaître pour lui dire « Aujourd'hui, je t'épouse dans la foi ». Ainsi, la vie de Sainte Catherine serait désormais unie à celle du Christ d'une manière stable et définitive, mais en même temps, son chemin de foi allait prendre une toute nouvelle orientation. Cette expérience d'union mystique marquait aussi la fin de la vie de recluse à laquelle la sainte s'était astreinte depuis plusieurs années. Catherine s'ouvrit donc progressivement à la vie du monde et elle reprit d'abord une participation plus active à la vie de la maison familiale. Ensuite, elle intensifia sa participation aux œuvres de miséricorde auxquelles elles se sont engagées, elle et les Mantellate, auxquelles elle appartient, ce tiers ordre dominicain dont elle fait partie depuis bientôt 3 ans. Il faut dire que son expérience d'union au Christ a transformé Catherine. Elle n'est plus uniquement absorbée par les mortifications et l'ascèse héroïque qui disciplinait sa vie avec passion. Elle semble maintenant adoucie et apaisée, et plus soucieuse de communiquer la tendresse et l'amour de Dieu qui avait envahi son cœur. Alors Catherine multiplie ses visites aux malades et les soigne avec dévouement. Elle devra aussi s'occuper de Giacomo Benincasa, son père, qui tombe malade en août 1368. Puis ensuite, quand celui-ci mourra, elle devra s'efforcer de consoler sa mère. Il semble d'ailleurs que c'est à l'occasion de la mort de son père que Sainte Catherine découvrit son puissant charisme d'intercession. En effet, elle prie à Dieu pour lui en disant « Je veux que mon père aille directement dans votre gloire et que vous punissiez sur moi les fautes de sa vie. » Et la réponse à cette prière fut immédiate. Elle ressentit aussitôt une douleur aiguë au côté droit, douleur qui ne la quitta plus jamais. Mais ainsi, elle se sentit rassurée sur le sort de son père. Et surtout, elle comprit qu'elle pouvait maintenant, par amour et par l'union à la tendresse du Christ, aider les âmes en prenant elles-mêmes leurs péchés. Ce qu'elle fit alors chaque fois qu'elle en eut l'occasion. Et il s'ensuivit bien sûr que sa renommée de sainteté commença à grandir à cause de guérisons miraculeuses qui parsèment son chemin. Elle va sauver sa mère d'une grave maladie, puis un de ses frères et aussi une de ses sœurs. Elle guérit également un ermite touché par la peste qui, rappelons-le, sévissait toujours. Mais elle ne soignait pas que les corps, elle se préoccupait aussi de sauver des âmes. Ainsi, Catherine s'occupa d'une de ses condisciples des Mantellate, une certaine Andrea, atteinte d'une horrible maladie, j'ignore laquelle, mais en tout cas incurable, et qui surtout était rongée par une jalousie et une haine farouche envers Catherine, qu'elle accusait de toutes les turpitudes. Mais à cette haine, Catherine répondra toujours par l'amour, la tendresse et le dévouement, car jusqu'au bout, elle va prendre soin de cette femme, pour laquelle d'ailleurs elle dut apprendre à surmonter la répulsion que lui inspiraient ses plaies purulentes. Mais le résultat de cet effort fut que la femme finit par changer. Elle fut touchée par la force de cet amour et quand elle mourut apaisée et confiante dans les bras de Catherine. On raconte aussi que Catherine prit soin d'une lépreuse, malgré l'opposition inquiète de sa mère qui voyait que les mains de sa fille commençaient à porter des marques de contagion. De plus, cette femme lépreuse n'était pas très commode à soigner, dit-on. Désagréable caractère, mais là aussi, Sainte Catherine s'obstina pour l'entourer de soins et d'affection jusqu'à ce qu'elle meure, après quoi la sainte se chargea même de sa sépulture. Bref, les témoignages de la charité débordante d'amour de Sainte Catherine vont se multiplier et lui forger une solide réputation que jamais rien ne va démentir. Cela lui apportera bien sûr l'admiration et le respect de ses contemporains, mais surtout elle gagna sur eux une puissante influence morale et spirituelle. Très vite d'ailleurs, de nombreuses femmes des grandes familles de Sienne vont la solliciter pour qu'elle devienne leur conseillère spirituelle. Mais ces années vont surtout être marquées encore par des visions du Christ de plus en plus fréquentes et de plus en plus intimes. Et il y eut d'abord celle, dès 1368, cette apparition du Christ qui lui dit « Accomplis désormais avec une force virile et sans tergiverser tout ce que ma divine providence te conduira à faire. L'arme de la foi que maintenant tu possèdes te fera vaincre dans la foi tout adversaire. » Avouons quand même que ces paroles sont étonnantes, ces paroles de Dieu, quand on pense qu'elles s'adressent à une jeune femme de très modeste extraction, simple laïque consacrée, mais quand même à une époque où le rôle des femmes est généralement limité aux soins domestiques. Et dans l'Église, autant que dans la société, on assignait à la femme un rôle secondaire et un statut de perpétuel mineur. Or, le Christ lui donne très nettement un rôle majeur, indépendant, et lui demande de l'accomplir avec une force virile. Et même si sa seule arme sera la foi, il est quand même bien question pour elle d'aller vaincre des adversaires. Ce sont des mots qu'on adresse normalement à des hommes, des soldats, mais pas à une frêle jeune femme de 21 ans. Mais en fait, toute l'ascèse que Catherine a si durement pratiquée pendant des années pour dépasser les conditionnements biologiques normaux lui ont ouvert déjà des possibilités d'accès au royaume de Dieu où, comme le dit saint Paul dans son épître aux Galates, il n'y a ni homme ni femme. Le biographe de Sainte Catherine de Sienne, Raymond de Capoue, raconte un autre entretien avec le Christ où celle-ci objectait qu'elle n'était qu'une femme ignorante. Alors Jésus lui répondit « Pour moi, il n'y a ni homme ni femme, ni savant ni ignorant, mais sache que dans ces temps derniers, l'orgueil des prétendus savants s'est élevé si haut que j'ai résolu de les humilier. C'est pourquoi je susciterai des hommes et des femmes ignorants, remplis d'une sagesse divine, qui confondra leur science imaginaire. Et voici que j'ai décidé de t'envoyer toi aussi vers le monde. » Voilà. Et de fait, Catherine développa très vite une capacité très particulière, celle de susciter autour d'elle toute une vie sociale d'une ferveur nouvelle, tout un cercle d'hommes et de femmes, très souvent même issus des classes sociales élevées, attirés par la personnalité de celle qu'on considérait déjà comme une sainte. mais sa force d'attraction ne résidait pas dans son extraordinaire volonté ascétique. Ce ne sont pas ces terribles mortifications ni toutes les privations qu'elle s'imposait qui séduisaient ses contemporains. Non, pas du tout. C'est bien la puissance d'amour qui émanait d'elle. Alors, il faut bien dire qu'au cours d'une de ses nombreuses expériences mystiques, celle qu'elle eut à la fin de l'année 1370, où le Christ lui apparut alors qu'elle priait, et elle priait avec ce verset 12 du psaume 50 qui dit « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. » Alors, elle vit Jésus qui lui enlevait le cœur. Et puis, quelque temps après, le Christ revenait, tenant à la main son propre cœur, qu'il plaça alors dans la poitrine de Catherine en lui disant « Je t'ai pris ton cœur, mais voici le mien. » La sainte resta ensuite comme morte pendant plusieurs heures. Puis, quand elle reprit conscience, tout en elle avait changé. Son cœur greffé ne pouvait plus éprouver désormais que l'amour parfait du Christ. Et selon les propres mots de sainte Catherine, je cite, « L'amour parfait fait jaillir de l'âme les vertus qui fortifient alors selon la diversité des besoins du prochain. Une fois parvenue à l'amour parfait, l'âme sort au dehors, rien ne la retient plus. » Voilà, c'est ce qu'elle ressentira, et c'est comme ça qu'elle vivra. C'est donc ce rayonnement puissant de l'amour du Christ qui va attirer vers elle toute une population en quête de spiritualité et qui deviendra rapidement une communauté assez soudée, une vraie famille spirituelle. De fait, le ciment de cette famille était l'amour de celle que bientôt tous appelèrent tout simplement « Mama ». Son rôle était réellement d'ailleurs celui d'une mère ayant vocation de rassembler autour d'elle ses enfants pour les nourrir de la présence de Dieu. Voici ce que dira sainte Catherine un peu plus tard. « Le cœur est un petit vase qui ne peut être rempli que par l'amour. Si les créatures veulent y boire, il faut les désaltérer. Une seule précaution suffit, ne pas retirer le vase de la fontaine d'amour qui est le Christ. Si on l'éloigne de la source, il s'épuise aussitôt. Mais qu'on le tienne sous le jet intarissable de la charité divine, des multitudes pourront y venir boire, il demeurera toujours plein. » Alors, en fait, Catherine de Sienne exprime là, à sa manière, l'enseignement même de Jésus, que l'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 4, dans l'entretien avec la Samaritaine. Je vous lis les versets 12-13 de ce chapitre de Saint Jean. « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » Donc voilà, à l'âge de 23 ans, sainte Catherine est devenue pour son entourage une source vive et elle laisse derrière elle sa vie cloîtrée pour se plonger alors sans réserve dans la vie du monde, sans crainte, avec comme seule préoccupation le salut de tous ceux qu'elle rencontrera. Elle connaîtra pourtant encore de grandes extases mystiques, dont certaines la laissaient dans un état cataleptique pendant des heures et faisaient même peur à ses amis qui la croyaient morte. Mais c'est dans ces extases qu'elle puisait une connaissance directe et réelle de la vie du ciel et une familiarité avec l'essence même de Dieu, disait-elle. Et c'est généralement aussi dans ces moments d'extase qu'elle dictait des enseignements que ses disciples recueillaient fidèlement. car rappelons-le, la sainte écrivit très peu elle-même, elle n'avait pas reçu pour cela une éducation suffisante dans son enfance. Elle avait appris à lire et à écrire assez tardivement. Mais elle avait maintenant atteint un état de plénitude spirituelle où elle était sûre de vivre en Dieu et que Dieu vivait en elle pour déborder et se communiquer à l'humanité tout entière. Ainsi, la voix de Dieu l'avait prévenue et lui avait dit « Je te rends à la terre pour que tu m'amènes des âmes en foule. Il te faudra quitter pour cela ta maison et ta ville natale. » Voilà. Et bien sûr, Catherine obéit, car sa volonté était maintenant totalement unie à celle de Dieu. Mais ce ne fut pas sans difficulté ni sans souffrance. Voici par exemple ce qu'elle écrit dans une lettre. Que personne ne s'étonne de ce que j'aime si tendrement ceux vers lesquels Dieu m'a envoyé, car je ne les ai pas achetés à un bas prix en acceptant pour eux de vivre loin du Seigneur. Voilà, sa mission avait donc pour elle un coût. Le prix à payer était de rester éloignée de la vie du ciel, qu'elle ne pouvait rejoindre que par des grâces passagères, juste assez pour entretenir sa nostalgie et son désir. Dans un premier temps, elle consacra ses forces à sa ville de Sienne. Elle était très attachée à cette ville. Elle continua bien sûr de se dévouer là aux pauvres et aux malades, mais de plus en plus, c'est à la conversion et à la guérison des âmes qu'elle se consacre. Sa sainteté et ses dons charismatiques étaient maintenant reconnus par de nombreuses grandes familles de Sienne qui formèrent ainsi le premier cercle de ses disciples et qu'on appela les Caterinati. Leur conversion consistait souvent simplement à adopter une vie plus simple, plus modeste, plus généreuse, parfois même à faire vœu de pauvreté pour se mettre au service de la sainte. Mais la communauté des adeptes de Sainte Catherine resta informelle dans le sens où très peu vont partager totalement sa vie quotidienne. Chacun restait chez soi et continuait d'assumer ses obligations familiales ou professionnelles. Et quand les contacts directs avec leur mère spirituelle étaient impossibles, alors on institua l'habitude du courrier. On lui envoyait des lettres pour lui demander des conseils et aussi pour ne pas rompre ce lien affectif tellement important pour consolider la famille spirituelle naissante. Sainte Catherine était donc devenue à Sienne une autorité spirituelle reconnue à laquelle de plus en plus de monde faisait confiance, des hommes, des femmes, mais aussi des religieux, dominicains, augustiniens ou franciscains, qui formèrent de véritables réseaux de fraternité, unis par la même admiration pour ce qui devenait véritablement un enseignement chrétien essentiel transmis par la sainte. Mais pas un enseignement livresque et abstrait, au contraire. Ce qui frappait les disciples de Catherine, c'était la puissance charismatique qui en émanait. Son secrétaire, Cristofano Guidini, écrivit plus tard « Dieu, c'est certain, renouvelait en elle les dons du Saint-Esprit. » Et un de ses biographes modernes, contemporains, fait pourtant remarquer que dans ce premier groupe de Caterinati, on trouvait assez peu de clergés. On n'y trouvait aucun prêtre séculier. ni même aucune moniale ni religieuse. Cela venait certainement de la position très originale de Sainte Catherine, qui, si elle prêchait un détachement du monde, elle n'en conseillait absolument pas l'abandon. En cela, elle répondait parfaitement à la prière que le Christ adresse à Dieu son Père à propos de ses disciples. Je fais référence à l'évangile de Jean, chapitre 17. Je vous lis d'ailleurs les versets 15 à 18, où le Christ dit « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. » Voilà, toute la spiritualité de Sainte Catherine de Sienne peut s'enraciner dans cette parole du Christ, puisque jusqu'au bout, elle voudra demeurer dans l'état laïque, tout en affirmant la possibilité d'une vie contemplative solide et efficace. Toute sa vie témoigne que l'inspiration divine est indépendante de toute condition sociale particulière et surtout indépendante d'appartenance à une forme spécifique de vie religieuse. Elle démontre que l'essentiel est de rencontrer Dieu en vérité, dans ce qu'elle appelle la cellule intérieure de l'âme, et que cela est possible dans n'importe quel contexte. En cela, elle suit simplement les traces de Jésus, donc de ne pas fuir la réalité historique et la vie concrète, car c'est là que se joue le destin surnaturel des hommes. Elle-même va s'engager, même en prenant position face aux dirigeants politiques, d'une manière très audacieuse. Je vous lis par exemple un texte plus tardif qu'elle écrivit en 1378 qui concernait la cité de Florence à ce moment-là. Voici ce qu'elle dit. « Les seigneurs deviennent des tyrans et au sein de la commune, leurs sujets ne nourrissent point de justice et de charité fraternelle. Chacun trompe et ment à seule fin de servir son intérêt particulier, oublieux de l'intérêt général. » Tous cherchent le pouvoir pour eux-mêmes et non pour le bien de la cité. Tels des aveugles, ils ne voient pas leur vraie misère, car lors même qu'ils croient s'enrichir, ils s'appauvrissent, et ce qu'ils croient posséder leur échappe quand ils s'y attendront le moins. Nous avons tous constaté et vécu cela maintes fois. C'est presque contemporain comme remarque. La sainte avait quand même visiblement la dent dure, elle s'exprimait sans détour. Mais ne soyons pas naïfs. Le chemin de foi de Sainte Catherine ne rencontra pas que des adeptes et des admirateurs. Même à Sienne, la jeune femme était loin de faire l'unanimité, surtout parmi le clergé, qui considérait fréquemment que c'était une simple illuminée, une femme un peu dérangée, qu'il n'hésitait pas à dénigrer publiquement. Certains même la trouvaient dangereuse parce qu'elle aurait pu pousser des moniales à sortir de leur couvent. Ce qui est amusant dans les biographies de la sainte, c'est qu'on voit, on nous raconte les retournements de certains de ses adversaires les plus virulents. Par exemple, un franciscain, Lazzarino de Pise, qui la critiquait ouvertement, fut invité par les dominicains à venir rencontrer Sainte Catherine pour lui parler face à face et la questionner directement. Et ce franciscain fut tellement bouleversé et convaincu qu'il devint immédiatement un de ses disciples les plus proches. Autre exemple, un moine ermite influent à cette époque, qui s'appelait Giovanni delle Celle, d'abord aussi critique virulent, va devenir ensuite un adepte convaincu et va entrer dans la fraternité. Et même Raymond de Capoue, dont je vous parlais tout à l'heure, qui devient ensuite le directeur spirituel et le biographe de Sainte Catherine de Sienne, reconnaît qu'avant de l'avoir rencontré, avec tout ce qu'il avait entendu à son égard, il était plutôt méfiant. Il avait tendance plutôt à voir en elle un produit des influences démoniaques, un peu un avant-coureur des signes de l'Apocalypse. Heureusement, la personnalité de la sainte était telle qu'elle finit par s'imposer malgré les critiques et malgré les soupçons. À partir des années 1372-1373, donc 25, elle a 25 ans ou 26 ans, sa renommée commence à dépasser les limites de la ville de Sienne. Et par l'intermédiaire des dominicains de son entourage, les échos de sa sainteté vont parvenir jusqu'aux plus hautes sphères de l'Église. Dès lors, on va lui envoyer quelques membres de la hiérarchie ecclésiastique pour qu'il se fasse une opinion directe, et ainsi elle fut soumise à l'interrogatoire de plusieurs théologiens. Mais ce qui se passa, c'est que tous vont apprécier ses charismes, son intelligence qu'ils jugèrent très vive, ses dons d'expression, et ils vont prendre la mesure de sa popularité aussi parmi les élites laïques des cités toscanes. Mais surtout, ce que les envoyés du pape vont retenir, c'est son caractère aimant et ses qualités et ses talents pour la conciliation et l'apaisement des conflits. Et ils vont juger que cela pourrait être utile et employer Catherine ainsi au service de l'Église. Alors on demanda au dominicain Raymond de Capoue de s'occuper de la formation politique plus largement pour Catherine et d'élargir les horizons de la sainte en l'ouvrant aussi aux problèmes généraux de l'Église. Il va devenir donc pour elle un tuteur, un directeur et un conseiller spirituel dont elle a su tirer des meilleurs enseignements. Mais très vite, leur relation va se modifier et finalement, Raymond de Capoue deviendra le disciple de la sainte, son principal disciple, et un grand soutien tout au long de sa vie. Et plus tard, en 1385, après la mort de celle-ci, c'est lui qui va se consacrer à la promotion de sa sainteté, en écrivant sa vie déjà, justement, sa biographie. Tout ça pour vous dire que la personnalité de Catherine faisait forte impression sur son entourage et que cela gagna progressivement jusqu'aux plus hautes autorités ecclésiastique. À partir de là, son chemin de foi va encore évoluer et ses expériences mystiques vont devenir encore plus impressionnantes. Mais nous verrons cela à partir de la prochaine émission. Je vous dis maintenant au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt. Ah, oui.